Voilà, vous avez lu tout à l'heure Luc chapitre 1, où l'écriture, c'est le texte qui précède un peu la naissance de Jésus avec Zacharie et Élisabeth. Donc je voudrais ce soir juste qu'on puisse regarder quelques aspects de la vie de ce vieux couple. C'est un vieux couple. On a souvent des choses à apprendre des vieux couples. Et parfois, les vieux couples bibliques sont pleins d'enseignements aussi pour nous. Et nous voulons apprendre d'eux, au moins en partie, ce qu'on peut savoir. Donc déjà, verset 5, on a lu tout à l'heure, verset 5, Luc nous dit que, il situe un couple qui vivait du temps d'Hérode, roi de Judée. D'accord? Donc, du temps d'Hérode, verset 5, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Donc, c'était une époque assez particulière parce que Hérode, je pense que c'est Jean-Pierre qui l'a rappelé un peu mardi dernier. Hérode était un personnage assez particulier. C'était un Édomite. Donc, descendant de qui? D'Ésaü. T'es descendant d'Ésaü. Et qui avait quand même, qui cherchait pas mal à gagner la sympathie des Juifs. Il a entrepris pas mal de choses. Il a construit le temple d'Hérode. Et c'est ce temple qui existait d'ailleurs à l'époque de Jésus. Donc il était, semble-t-il, assez populaire, on pourrait dire, auprès du peuple juif. Et à l'origine de ce qu'on appelait le parti des Hérodiens. Si vous lisez Marc chapitre 3, voilà, il y a un parti qui s'appelle le parti des Hérodiens, donc c'est lui qui était probablement à l'origine de cela. Mais à côté de tout ce qu'il a fait, qu'il a pu faire, qui pourrait être classé dans la catégorie de choses bonnes, il y a un contrepoids parce que c'est un personnage extrêmement avide de pouvoir. Et un sanguinaire même, conquérant sanguinaire, il fait, je crois que Jean-Pierre nous l'a rappelé, il a fait tuer sa femme, son frère, sa mère et plusieurs de ses fils. C'est terrible quand même. Et je crois que j'avais lu quelque part, je vais pas renoter ça, mais quelqu'un qui disait que, enfin les gens à l'époque disaient qu'il valait mieux être le porc d'Hérode que son frère, quoi. Vous avez plus de chances de survie, quoi. C'est pour vous dire à quel point il était sanguinaire. On voit sa cruauté dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages sont venus pour adorer Jésus. Et puis, la Bible dit que il s'est senti trahi par les mages qui ne sont pas revenus le voir. Il a fait tuer tous les enfants, assassiner tous les enfants qui étaient au-dessus de 2 ans et en dessous. Pour être certain, peut-être, de brasser suffisamment large et être certain de prendre dans le filet ce roi des Juifs qui venait de naître. Et donc, à cette époque, les Juifs étaient bien sûr sous domination romaine. Et même si Hérode est roi, il était lui-même soumis à l'autorité romaine. Et c'est dans ce temps-là que nous dit Luc, c'est dans ce temps-là que il y avait un couple, un sacrificateur qui était nommé Zacharie, et puis qui avait une femme nommée Élisabeth. Donc c'était un temps de ténèbres, un temps difficile. L'Ancien Testament même annonce cette époque de la venue de Jésus comme un temps où le peuple était assis dans les ténèbres. On voit ça, et je crois que Zacharie même, il reprend cela dans ce qu'il dit dans Luc. Mais je reprends Matthieu 4, 16 qui dit: « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur eux, sur ceux qui étaient assis, dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Donc c'est cette période qu'on appelle Noël, de la venue de Christ, qui est cette lumière qui s'est levée. Dans ces circonstances troubles, difficiles, compliquées pour le peuple. Donc, c'est une époque, on pourrait dire, troublée, ici, dans laquelle vit ce vieux couple. Ce que Luc souligne, premièrement, c'est le contraste qui existe entre, on pourrait dire, l'époque difficile, troublée dans laquelle ils vivent, Et puis, la piété de Zacharie et Élisabeth. Qu'est-ce qu'on lit d'eux ? Regardez au verset 6, qu'est-ce qu'il est dit ? Ils étaient tous deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quand on lit ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. Voilà, ils sont avancés en âge, hein, on le voit plus tard, ils sont vieux. Verset 18, il dit « Je suis vieux et ma femme est avancée en âge ». Donc ce sont des personnes qui sont âgées, qui sont de famille sacerdotale, puisqu'on voit bien que Élisabeth était fille d'Aaron et que Zacharie lui-même était sacrificateur, hein, puisqu'il était de la classe d'Abia. Alors, c'est un couple qui nous est présenté par Luc, par leur piété, hein, le fait qu'ils servaient Dieu. Zacharie, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire, Zacharie ? Dieu s'est souvenu. Hein, Dieu s'est souvenu. Et Élisabeth, ça veut dire serment de Dieu. Voilà ce que signifiaient leurs deux noms. Alors, les sacrificateurs à cette époque avaient comme tâche essentielle de servir le Seigneur dans le sanctuaire et d'enseigner la loi au peuple. Donc, c'était un enseignant. Et puis, il servait, il offrait le parfum dans le temple. Et donc, il consultait, on pourrait dire, il pouvait consulter l'Éternel aussi pour le peuple. Donc, tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et donc, ils vivaient d'une manière droite, ils étaient dévoués, ça veut dire qu'ils étaient obéissants. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sans péché, d'accord ? On comprend cela bien. D'ailleurs, peu de temps après, qu'est-ce qui se passe ? Zacharie, il fait quoi ? Il est incrédule, hein, puisque Dieu va le frapper de mutisme, parce qu'il n'a pas cru, hein, le texte dit. Et l'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru. Et donc il sera frappé pour montrer à quel point voilà, Dieu juge cette attitude d'incrédulité. Mais en même temps, l'Écriture nous dit que c'était un couple, c'était un homme et une femme qui étaient pieux, qui vivaient et qui observaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Donc cela ne signifie pas bien sûr qu'ils étaient sans péché, parce qu'il n'y a personne qui est sans péché, mais ça veut dire quoi ? Que quand ils péchaient, probablement ils faisaient ce que la loi demandait. Hein. Et pareil, hein, quand on pêche, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit se repentir. Hein. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il n'a pas le péché, c'est un menteur. Mais il dit, mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, et puis si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner, pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que ça veut dire. Donc cette piété, quand on lit les récits de Noël, caractérisait un peu toutes les personnes hein, qui nous sont citées dans la période de Noël. Par exemple, Siméon, hein, Marie, on voit ici Élisabeth, encore d'autres, donc Anne, hein, qui était très avancée en âge. C'était des personnes qui étaient marquées, qui sont décrites par leur piété, pas par leur perfection, mais par leur piété, par le fait qu'ils servaient Dieu de manière irréprochable. Marie aussi, Joseph aussi, toutes ces personnes nous sont présentées de la même manière. Leur piété montrait leur fidélité aussi à Dieu, au service dans lequel Dieu les avait engagés. Et donc, on pourrait dire que c'est un couple avec une piété réputée, hein. On voit bien ici, de manière très claire, qu'ils sont pieux, ils sont fidèles dans ce qu'ils font tous les jours pour le Seigneur et ils cherchent à observer constamment et avec beaucoup de, avec beaucoup de scrupules, hein, la loi de Dieu. Troisième chose qu'on peut souligner, c'est que c'était aussi une famille éprouvée. Hein. Donc, ils vivaient dans un temps qui était troublé, ils étaient pieux, une piété réputée, mais aussi c'était une famille qui était éprouvée. Le texte nous dit verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Il n'avait point d'enfant à cause de la stérilité d'Élisabeth. Alors, la stérilité d'Élisabeth ne leur a pas permis d'avoir d'enfants, et maintenant leur vieillesse ne leur permet plus d'espérer même d'avoir un enfant. Et c'était quelque chose qui était certainement très difficile pour eux. Il faut bien saisir ce que ça représentait à cette époque. Aujourd'hui, bon, on fait la grève du ventre. Hein, j'entends parler des gens qui font la grève du ventre parce que la planète est tellement en danger qu'il ne faut pas mettre d'autres enfants au monde au risque de gâcher encore davantage la planète. Enfin, c'est un peu l'esprit que l'on a. Mais à cette époque, là, pour le peuple juif en tout cas, la postérité était quelque chose de crucial. Avoir des enfants était quelque chose de crucial. Et quand on lit l'Écriture, on voit bien qu'une simple, une simple lecture nous montre à quel point c'était important. La fécondité était signe de bénédiction de la part de Dieu. Alors, par exemple, le psaume 113, verset 9 dit « Il donne une maison à celle qui était stérile. » Hein. Une maison, ce n'est pas juste qu'il construit des murs, hein. C'est qu'il donne une maisonnée. Hein. Il donne des habitants dans cette maison. Donc, il donne des enfants. C'est ça que ça veut dire. « Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. » C'est que le psaume dit, voilà, c'est un signe de bénédiction. Ne pas avoir d'enfant, c'est un signe de malédiction. Hein. Donc, Deutéronome 7, 14 dit, « Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. » Ça veut dire que quand il y en a, hein, c'est un signe que, voilà, il y a une malédiction qui repose. Mais là, tu seras béni, donc il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de stérilité, ni bête stérile, ni parmi les hommes, ni parmi les troupeaux. Et donc, on peut bien comprendre que ne pas avoir d'enfant était vécu ici comme une malédiction. Pourtant, il y avait beaucoup de personnes stériles quand on lit l'Écriture. On en parlait tout à l'heure avec ma femme à la maison, on dit, mais quand même, il y a eu beaucoup de femmes stériles dans l'Écriture. Est-ce que vous avez quelques-unes qui vous viennent en tête? Anne? La mère de Samuel, voilà, qui était même maltraitée à cause de sa stérilité. Hein. Sarah. Rachel. Oui. Hein. La femme de Manoah, la mère de Samson. Hein, était stérile aussi. La Bible dit qu'elle était stérile. Il y avait un homme qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile. Et on trouve ça, quand on cherche un peu, on trouve pas mal... quand même de personnes qui sont souvent des personnes clés dans le plan du Seigneur hein, et qui ont été des femmes stériles. Malgré que c'était quelque chose de difficile, hein, rappelez-vous ce que Rachel dit à son mari Jacob. Il dit « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob « Donne-moi un enfant ou je meurs. Hein? » C'est terrible ça. Hein? Et Jacob lui dit « Ici, il se met en colère, il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» N'est-ce pas hein? C'était quelque chose de terrible hein, ici. Hein? Et plus tard, hein, quand elle devient enceinte, elle dit, plutôt la Bible dit, ici, c'est elle qui le dit, mais il dit « Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça dans Genèse 30 et la rendit féconde. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ouais, à quel point c'est quelque chose. Et on va le voir tout à l'heure, mais Élisabeth dit la même chose hein, d'ailleurs. Hein. Dieu m'a enlevé mon opprobre, ma honte. Hein. C'est quelque chose qui était vécu comme une honte ici. Mais je voudrais souligner en passant quelque chose. Aujourd'hui, la stérilité, c'est considéré comme une maladie. Parce que... Hein, qu'il faut soigner, les médicaments pour soigner. Et je suis frappé de voir quand dans la pensée biblique ici, hein, ces femmes, ces hommes considèrent cela comme ce que Dieu a fait. Hein. Jacob dit à sa femme, « Dieu, suis-je à la place de Dieu qui t'a rendu stérile ?» Il dit comme ça. La Bible dit, quand on lit l'histoire de... Je crois que c'était, je ne sais pas si c'est Anne, il me semble que c'est Anne, hein, pour Anne, Il dit Anne que Dieu avait rendue stérile. La Bible dit comme ça. Et c'est quelque chose quand même de considérer. Je pense que ce qui montre quand même la piété quand même de ces personnes aussi, d'une certaine manière, même dans leur souffrance, c'est qu'elles considèrent que ce qu'elles vivent, Dieu le permet. C'est à cause de Dieu qu'elles le vivent. Et peut-être c'est difficile, mais c'est Dieu qui permet de le vivre. Et certainement Jacob voulait que Sarah, que Rachel ait des enfants. Je suppose que c'était celle qu'il aimait. Et donc il voulait qu'elle ait des enfants. Mais quand même il dit, mais je ne suis pas à la place de Dieu, c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Voilà. Et ça montre à quel point ces personnes plaçaient Dieu dans toutes les circonstances de leur vie. Même s'ils pouvaient parfois pester contre les choses, mais ils savaient que c'était la main de Dieu qui était là. Donc c'est quelque chose quand même qui, je dis en passant, qui est important, on va y revenir tout à l'heure. Ces personnes ont dû porter toute leur vie cette douleur. Zacharie et Élisabeth ont porté toute leur vie la douleur de ne pas avoir d'enfant. Même si, quand ils sont devenus vieux, ils se sont fait, on pourrait penser qu'ils se sont fait une raison, mais les paroles d'Élisabeth laissent penser que cette honte qui semble reposer sur celui qui n'a pas d'enfant était quand même toujours en elle. Regardez ce qui est dit au verset où on voit où elle a accouché, où elle est devenue enceinte, pardon. C'est verset 25, 24 même, voilà, 24 déjà. Il dit quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ça, c'est, vous voyez encore une fois, maintenant je suis, c'est pas le médicament, c'est pas le traitement pour avoir des enfants qui fait quelque chose, mais c'est la grâce que le Seigneur m'a faite ici. Et elle dit, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. C'est-à-dire, je ne sais pas quel âge elle avait là, je ne sais pas, 70, 80 ans, j'en sais rien. Mais elle était avancée en âge au point que Zacharie dise, ce n'est pas possible que nous ayons des enfants. Et elle dit, Dieu a enlevé en me rendant enceinte, en me donnant un enfant, Dieu a enlevé mon opprobre. Ça veut dire que cette opprobre, dans son esprit, était quelque chose qui était toujours présent. La situation qu'elle vivait était toujours pour elle comme une honte. Mais elle a vécu avec et elle a servi le Seigneur avec. Elle a accepté. Et puis, quand le Seigneur lui accorde une autre situation, elle rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais elle a accepté cette opprobre de ne pas avoir d'enfant. Ici. Je lis dans d'autres traductions comment c'est écrit. C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté les regards sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Second 21, parole de vie dit comme ça, il dit, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi. Il a enlevé ma honte. Un sentiment de honte sociale qui habitait ces femmes, probablement. Et peut-être qu'elles étaient, on voit comme Anne, molestées, regardées. Oh, peut-être qu'il y a un péché, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la bénédiction de Dieu parce que Dieu ne leur a pas donné cela. À nous, il nous l'a donné. Mais à eux, donc c'est peut-être que, voilà, ce sont... On ne sait pas tout ce qui peut se passer dans l'esprit des gens. En tout cas, on voit que c'était une famille quand même éprouvée. Le fait de ne pas avoir d'enfant était quelque chose de douloureux pour cette famille. On le voit à travers les mots même qu'Anne prononce ici. Et puis quatrièmement, on peut voir aussi que cette famille, ce couple, eh bien, voit ses espérances comblées aussi. Donc des espérances comblées. D'abord, on voit que Zacharie est appelé par le sort. Verset 9. Il était de la classe d'Abia. Donc Abia, c'était la 8e classe. Combien il y en avait, vous vous rappelez, de classe de sacrificateurs? 24, qui avait été établi par David. On trouve ça dans la référence dans 1 Chronique 24. Vous pouvez lire ça après, 1 Chronique 24. On voit toutes les 24 classes de sacrificateurs que David a établies. Et Abia, c'était la 8e classe. Et donc chaque classe officiers à tour de rôle. C'est ça que le texte dit. Pendant qu'il servait, verset 8, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. C'était le tour de sa classe. Et chaque classe intervenait une semaine et deux fois dans l'année, deux semaines dans l'année. Okay. Voilà, donc ça fait à peu près, c'est comme ça à peu près que ça se passait. Alors lui, il faisait partie donc de cette huitième classe, il offrait le parfum deux fois par jour, et le sacrificateur qui le faisait était choisi au sort. Donc la famille avait son tour, mais dans la famille, dans la classe, le sacrificateur était tiré au sort. Ici. Et c'est ce qu'on voit d'après la règle. Alors il dit, pendant qu'il s'acquittait ici de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Donc il est tiré au sort. Et ça tombe sur lui. D'accord. Et il va donc pouvoir offrir le parfum. C'était un privilège exceptionnel qui était donné à ces sacrificateurs. Un privilège exceptionnel. Et un commentateur fait remarquer ceci. Il dit qu'il y avait 18 000 sacrificateurs à cette époque. C'est beaucoup, hein? 18 000. Et que la probabilité pour qu'un sacrificateur particulier soit choisi était très faible. Extrêmement faible. Et donc, beaucoup de sacrificateurs n'ont jamais eu le privilège de toute leur vie entière d'offrir le parfum, de tomber sous le sort pour offrir le parfum. Okay. Donc, quand Zacharie il va pour servir selon ce qu'il fait habituellement. Hein, d'accord ? Et c'est un... exceptionnellement, miraculeusement, d'accord. Donc, alors, le sort est tiré de manière aussi ordinaire que d'habitude, et là, ça tombe sur lui. Bien sûr, on sait bien, la Bible dit que on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a choisi pour qu'il puisse le faire. Donc voilà, on pourrait dire, je suppose que chaque sacrificateur avait cette espérance un jour que le sort tombe sur lui pour qu'il puisse avoir ce privilège d'offrir le parfum, d'offrir le parfum. Ça, c'est le premier privilège. Et puis, deuxième privilège qu'il a, deuxième espérance comblée, on pourrait dire, c'est le fait que pendant qu'il sert Dieu, il y a un ange qui lui apparaît et qui lui annonce qu'ils auront un enfant. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. » Ici. Alors, les avis sont partagés chez les commentateurs pour savoir quelle prière est exaucée. Est-ce que c'est la prière qu'il a dû faire au début de sa fringante jeunesse avec son épouse pour avoir un enfant, et peut-être pendant plusieurs années, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est la prière qui concerne la venue du Messie ? Parce que n'oublions pas que c'est quand même un sacrificateur, Zacharie. Hein? Et donc, l'Ancien Testament... C'est un enseignant du peuple, ils connaissent l'Ancien Testament, ils connaissent les textes concernant la venue du Messie. Ils vivaient dans l'attente de la venue du Messie. Alors certains disent que c'est peut-être que c'est ces prières qu'il Dieu dit, voilà, maintenant, lui dit, annonce que le Messie est sur le point de naître et que ses prières sont exaucées. Mais on peut aussi penser que c'est sa prière qu'il a eue dans le passé, peut-être concernant aussi l'enfant. On peut mettre les deux, peut-être c'est les deux. Le texte ne le précise pas. En tout cas, on peut dire que Dieu répond à une espérance qu'ils avaient. Et même, on pourrait dire que les deux choses sont liées, parce que l'espérance du Messie, et ça c'est leur attente, l'espérance de l'enfant qu'ils avaient, toutes ces deux choses concordent, parce que l'enfant, c'est Jean-Baptiste, qui est le précurseur, qui est celui qui vient juste avant Jésus pour annoncer, pour ouvrir, comme il le dit, le chemin du salut aux hommes, pour montrer le chemin du salut aux hommes. Donc, on pourrait dire Dieu fait, je ne veux pas dire que Dieu fait d'une pierre deux coups, mais montre que voilà, l'espérance du Messie, à la fois l'espérance d'un enfant, sont accordées ici. Donc ici... l'enfant qui va naître, c'est bien sûr Jean-Baptiste. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6 dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc on peut imaginer, je pense, la joie de ce couple, hein, de voir comment Dieu répond à leur prière. D'ailleurs, on le voit, Élisabeth, elle est dans la joie, elle dit, la Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Et puis ensuite, plus tard, quand elle voit Marie qui vient la voir, hein, il y a son enfant qui tressaille au-dedans d'elle, et puis elle-même, elle est dans la joie de voir Marie et de penser aussi, donc ces deux événements qui sont remplis de joie et qui répondent à une grande espérance qu'ils avaient, l'espérance du Messie, mais aussi l'espérance d'avoir un enfant. Alors, ce que je voudrais souligner en conclusion sur tout ça, c'est plusieurs petites vérités concernant ce couple. C'est un couple pieux, on l'a dit, hein. Et on peut noter, premièrement, que la vraie piété, la piété véritable, s'exprime en tout temps. C'est un temps difficile, un temps troublé, ici. Mais on voit ces deux personnes qui servent le Seigneur dans ce temps difficile, dans ce temps troublé. Et il n'y a pas de temps, de circonstance dans lequel le chrétien puisse se trouver, où l'évangile, où il n'est pas possible de vivre l'évangile. Quoique, ça c'est quelque chose que je trouve qui est très important. Parfois on dit, oui, ma situation est difficile, moi je vis dans un pays où c'est très... C'est vrai, il y a des pays où c'est très difficile, mais quand on lit l'Écriture, quand on lit l'apôtre Paul, quand on lit l'apôtre Pierre, ce qu'il dit aux citoyens qui vivaient dans la souffrance, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de type de gouvernement qui soit profondément incompatible, je veux dire, hein, avec l'évangile, voilà, dans lequel on ne puisse absolument pas vivre l'évangile. On voit ce couple dans une situation qui est compliquée, sous domination romaine, avec un chef qui est sanguinaire, continuer à servir le Seigneur régulièrement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que la véritable piété aussi se montre dans la fidélité d'un service qui est ordinaire. Élisabeth et surtout Zacharie servent Dieu tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui montent au temple, hein. Je pense que Zacharie montait au temple tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui servent. Tous les jours, il y a des tirages au sort. Combien de fois il y a eu un ange qui est apparu lorsqu'il y a un sacrificateur qui est rentré pour offrir le parfum? De ce qu'on voit ici, une fois. C'est-à-dire que l'exceptionnel ne se produit en général qu'exceptionnellement, hein, qu'une fois. Et que la piété ne consiste pas toujours à chercher un ange qui apparaît, des choses extraordinaires dans la manière de servir Dieu. La vraie piété s'exprime dans un service qui est parfois tout simple et ordinaire. C'est comme ça que Zacharie servait. Il allait tous les jours au temple, et ça fait, puisqu'il était vieux, d'accord, on ne sait pas, sa classe a été au service pendant plusieurs semaines tout au long de ces années. Lui, c'était peut-être la première fois qu'il entrait, mais beaucoup d'autres sont entrés avant lui pour offrir le parfum. Mais jamais ils n'ont eu une apparition exceptionnelle, miraculeuse, surnaturelle. Ils ont servi le Seigneur de manière la plus ordinaire qui soit. Et ça, c'est important pour nous de saisir cela. Notre fidélité doit se montrer dans le service ordinaire, dans ce que l'on fait de manière ordinaire au temple, régulièrement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Ça n'est pas important. C'est de pouvoir œuvrer, servir Dieu chaque jour de manière la plus ordinaire. C'est ça qui montre la fidélité et la véritable piété. Troisième chose qu'on peut tirer de l'exemple de ces deux personnes aussi, c'est que les souffrances, selon Dieu, doivent nous pousser à le servir toujours avec le plus grand soin. La douleur et les souffrances de ce couple-là, on l'a dit, ils sont demeurés intacts. Ils ont accepté quelle était la volonté de Dieu, que la stérilité d'Élisabeth était la volonté de Dieu pour eux. Zacharie, lui qui était un enseignant, du peuple. Il connaissait ce que 1 Samuel 1, verset 6, par exemple, où il est dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Il sait que ça vient de Dieu. Il peut prier pour que Dieu l'enlève, mais il accepte comme venant de Dieu ici. Mais Luc met en évidence vraiment cette piété de ce couple au regard de sa situation familiale. Et il nous montre que même si elle souffre, elle continue à servir le Seigneur avec fidélité. Elle sert Dieu de manière irréprochable et ne se laisse pas abattre, même si les circonstances sont douloureuses, même si le désir de leur cœur n'est pas satisfait. Ils servent quand même le Seigneur Dieu. Et c'est ce que Pierre dit. Il dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, parce que être stérile, c'était souffrir selon la volonté de Dieu, ici. Il dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle serviteur en faisant ce qui est bien. La tentation, c'est de faire ce qui est mal, parfois, parce qu'on souffre quelque chose. Par exemple, certaines personnes disent « Je souffre de la solitude. Alors, je préfère me marier avec une personne, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je ne peux pas. La solitude est trop difficile à supporter. » On peut être stérile et puis dire la même chose. Okay? Peut-être maintenant on ne se pose même plus la question. D'ailleurs, quand on est stérile, je discute avec beaucoup de gens, quand on est stérile, on ne se pose même plus la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut ou est-ce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et on dit oui, mais maintenant on a atteint un degré de connaissance, on a des médicaments, on a la science, on peut répondre à beaucoup de questions. Et je crains que la science ne devienne... On voit tout comme une maladie, et donc on voit tout comme étant du domaine de la science, et on maintient Dieu en dehors des situations comme celles-là qui peuvent nous arriver. Et je connais deux cas de personnes dont la femme était stérile, et puis une qui a suivi des traitements, puis qui a eu des quadruplets, non ? Ça, hein ? Des quadruplets. Le couple, il est parti en miettes, hein. Et je connais, je n'ai pas dit que c'est à cause de ça, mais je veux dire, hein, bon, mais tout était misé sur les médicaments, la médication. Et puis je connais un autre couple qui était stérile. Ils sont restés 10 ans, 8 ans, 8 ans stérile. Elle n'a jamais voulu faire de médicaments. On a dit, si c'est le Seigneur qui veut, s'il veut un jour qu'on ait un enfant, on l'aura. Et ils ont eu un enfant au bout de 8 ans, sans rien faire. Simplement en remettant les choses au Seigneur, en disant que si le Seigneur permet que c'est comme ça, pourquoi je vais... C'est pas une maladie, la stérilité. Donc, ils ont fait comme ça. Et quand je considère les choses, je me dis, ça me rappelle ce que je dis, c'est Dieu est au contrôle de toutes choses. Il faut qu'on apprenne à... Je dis pas qu'il faut pas faire des choses, parfois, quand la médecine permet de faire des choses, mais on a peut-être cette tendance maintenant à ne plus voir Dieu et à dire on a les moyens techniques. Et on court tout de suite vers nos moyens techniques en oubliant que Dieu permet des choses. Ici, le texte dit c'est Dieu qui rend comme ça, c'est Dieu qui fait ceci. C'est la médecine est devenue une idole. La médecine est devenue une idole. Donc il nous faut être attentifs à ça. Être pieux, c'est aussi placer Dieu dans... Savoir que Dieu a contrôle dans toutes les choses qui nous arrivent, y compris dans les situations comme celle-là. Donc, souffrir selon la volonté de Dieu, en remettant notre âme au fidèle Créateur et en faisant ce qui est bien. Et c'est ce que Pierre dit ici. Je connais quelqu'un qui me dit, il n'y a pas très longtemps, qui va prendre une décision parce que vivre seul, c'est pas... la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle doit être vécue seule. Et la personne va prendre une décision de partir. Donc, il faut que je réponde. Je dis, mais c'est terrible de ne pas considérer que Dieu peut permettre de vivre comme cela. Même si c'est difficile. Et de penser que voilà, Toujours, on doit prendre une décision qui va nous permettre de sortir de cette situation. Non, ce que Pierre dit, c'est que si c'est la volonté de Dieu, eh bien, il faut remettre notre âme au fidèle Créateur et continuer à faire ce qui est bien. Il faut continuer à agir, prendre les bonnes décisions, même si, à côté, il y a la souffrance de la situation. C'est ce que Dieu veut qu'on apprenne à faire. Ça, c'était mon troisième point. Donc, la souffrance, selon Dieu, doivent toujours nous pousser à servir avec le plus grand soin. Dieu avec le plus grand soin. Et puis, aussi, on peut voir dans l'histoire de Zacharie et Élisabeth, ceci, c'est que la réponse que Dieu apporte à la prière à ses enfants, souvent dépasse notre simple satisfaction immédiate. Quand Dieu apporte une réponse, quand on s'attend à Dieu, qu'on fait ce qui est bien, et que Dieu répond finalement, quand il répond, eh bien on se rend compte que finalement ce que Dieu donne, ça dépasse simplement le fait de satisfaire notre désir ou notre besoin ici. Et l'histoire de ce couple s'inscrit dans cette vérité. En fait, c'est une histoire qui s'inscrit dans une histoire encore plus grande. C'est l'histoire d'un couple qui a un enfant, mais quand on lit l'Écriture, c'est pas de ce dont il est question ici. Il est question de l'histoire du Messie. Ici. Et les choses comme ça peuvent se produire. Dieu répond à la prière de Zacharie dans le temps qui lui est propre et de la manière qui lui est propre et de manière à accomplir ses desseins. Et toujours le plan rédempteur de Dieu, je le dis comme ça, est une cause infiniment au-delà de toutes nos situations propres. Ce que Dieu veut faire dans son plan rédempteur est au-dessus de tout ce que nous avons envie d'avoir, que les conforts, les enfants, le mariage, etc., tout ce que l'on peut désirer avoir. Et on a un exemple avec ce couple, mais on a aussi un exemple avec la résurrection de Lazare, rappelez-vous. Marthe et Marie réclament que leur frère guérisse, et Jésus le laisse mourir, volontairement. Il le laisse mourir. Et puis ensuite, les Juifs même reproche à Jésus de laisser mourir Lazare. Il dit, lui qui a guéri tant de personnes, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? C'est comme ça qu'il parle de Jésus, vous rappelez-vous, dans l'évangile de Jean. Et Jésus dit, lui, dans l'évangile de Jean, dans ce contexte-là, il dit, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là pour pouvoir guérir Lazare. C'est ce qu'il dit. Et il dit, mais nous allons vers lui. Et puis un peu plus loin, il prie son père, il dit à son père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et c'est une manière de dire que le retard qu'il a mis à faire les choses, à venir, la résurrection de Lazare, c'était pas simplement pour ressusciter Lazare et puis pour rendre Marthe et Marie joyeuses, il aurait pu empêcher qu'ils meurent. Mais c'était à la fois pour Marthe, à la fois pour Marie et à la fois pour les Juifs qui étaient là afin qu'ils croient. C'est-à-dire que le plan, le but de Dieu, ce n'est pas juste de satisfaire nos désirs, de combler nos désirs. Mais il a toujours une visée rédemptrice, on pourrait dire. Il agit de manière à ce que son plan rédempteur s'accomplisse. À ce que son plan rédempteur s'accomplisse aussi dans notre vie. Et puis, dernier point que je souligne, c'est que si notre attente et nos requêtes ne sont pas... Si nos attentes et nos requêtes ne sont limitées qu'à nos bénédictions temporelles, nous ne serons pas dans la joie quand bien même nos requêtes seraient exaucées en tant que chrétiens. On peut espérer profondément avoir un enfant. Et puis, quand on a l'enfant, on est triste. On est déçu. Parce qu'on a mis un tel désir dans cet enfant qu'il ne marche pas avec le Seigneur, par exemple. Ou je ne sais pas, il se passe n'importe quoi. Et on se dit, à quoi bon avoir des enfants? C'est un frère qui me disait une fois, il me dit, il y a des personnes qui ne sont pas mariées, elles veulent se marier. Donc, elles pensent que c'est ça, c'est le summum. Et puis, une fois qu'elles sont mariées, elles se rendent compte que, bon, c'est pas forcément, c'est pas le Pérou. Alors, elles disent, ben, si on avait des enfants, ce serait mieux. Et puis, une fois qu'ils ont des enfants, eh bien, il y en a qui ne marchent pas avec le Seigneur. Et puis, ils disent, à quoi bon avoir des enfants si c'est pour souffrir? Un peu comme, c'était, qui c'est qui avait dit ça? C'était Rebecca, non? Dans la Bible, qui avait dit, à quoi bon avoir, à quoi me sert la vie si c'est pour, voilà, que, voilà. C'était, à propos d'Ésaü, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle dit, ouais, que me sert la vie? Elle voit son fils qui épouse voilà, une femme canadienne. Donc, ça lui avait causé beaucoup de tristesse. À quoi bon avoir des enfants si c'est pour vivre des choses comme cela, hein? Mais en fait, on est comme cela parce qu'on a mis toute l'espérance dans le fait d'avoir cet enfant, ou d'avoir ce mari, d'avoir cette épouse, d'avoir ces choses. Mais quand on regarde Zacharie et Élisabeth, lorsque Jean-Baptiste naît, c'était étrange. Regardez, on ne va pas le temps de voir tout ça, mais Zacharie, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'on trouve ça au verset? Quand il demande les tablettes, là, il commence à parler. Sa langue se délie. Il bénit Dieu, verset 64. Il bénit Dieu, la crainte. Donc, la Bible dit que la crainte de Dieu s'empare de tout, mais on voit son cantique après. Il rend grâce à Dieu et dit, béni soit, verset 68. Le Seigneur, Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et rachetés son peuple et suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé. Il parle de Jésus et de ce que cet enfant va pouvoir faire comme l'ange lui a annoncé. Mais sa perspective, on voit que sa perspective de loin, enfin comment je vais dire ça, le centre de gravité de son adoration, c'est le Messie. Et son enfant. Ce n'est pas dit qu'il n'est pas content d'avoir un enfant, mais il vient en second lieu. Il n'est pas axé sur cet enfant. Le temps peut être à jouer, hein, peut-être la maturité spirituelle va certainement jouer, mais il place cet enfant dans le cadre du plan de Dieu. Et ce que je dis, c'est que si, quand on attend, quand on prie, ce qu'on cherche, c'est qu'une bénédiction temporelle, eh bien, quand bien même cette bénédiction nous est accordée, on ne sera pas satisfait. Mais si ce qu'on cherche, c'est qu'on peut demander à Dieu de nous accorder quelque chose pour qu'on le serve mieux, davantage, peut-être pour pouvoir être mieux à son service, peut-être accorde-moi une épouse afin que je puisse te servir davantage, je ne sais pas, il y a des gens qui prient comme ça, pourquoi pas, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais si ce que l'on veut, on a dans la pensée, c'est de servir le Seigneur, mais quand Dieu accorde la bénédiction temporelle, elle devient une vraie bénédiction, parce qu'on en arrive à la placer dans la perspective du plan de Dieu. Et pas simplement comme quelque chose qu'on recherche pour soi-même. Voilà. Voilà. Donc que le Seigneur nous aide avec ces personnages à essayer de tirer un peu de leur vie, hein, des choses qui sont importantes pour nous ici. Et je crois que pour nous, là, c'est vraiment apprendre à vivre une vie de piété en faisant confiance au Seigneur, en le priant, en le servant fidèlement. Dans la situation dans laquelle il nous a placés, on peut prier pour des choses différentes, mais voilà, que le Seigneur nous aide à être fidèles dans l'état où nous sommes et le servir de la manière la plus ordinaire qui soit. On n'a pas besoin d'extraordinaire pour servir, hein. S'il permet que quelque chose d'extraordinaire arrive, eh bien, tant mieux. Mais sinon, nous sommes appelés à le servir de la manière la plus simple et la plus ordinaire qu'il soit. Et Dieu, il intervient. Ce que j'aime dans ces histoires, c'est que on voit que Dieu intervient dans le cours naturel des choses, de l'histoire de la vie des hommes. Qu'est-ce? Des choses qu'ils faisaient depuis des années. 400 ans, il n'y a pas de prophète, personne qui parle, pas de signe, pas de lumière. 400 ans de silence prophétique. Et première chose qui se passe, un ange apparaît quand Zacharie. Mais pendant ces 400 ans-là, ils ont servi, 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 servi. C'est long, hein, 400 ans. Hein? C'est long, hein? 400 ans à servir. Okay, nous. Donc, servons le Seigneur. Servons-le, hein, fidèlement et avec joie. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Et nous voyons dans ces récits que nous appelons récits de la nativité, combien tu agis dans les choses ordinaires de la vie. Tu interviens miraculeusement, mais dans les circonstances les plus humbles, les plus routinières, pourrions-nous dire, de la vie de tes enfants. Et nous te prions afin que nous soyons encouragés par cela, par ceux qui t'ont servi fidèlement et qui ont vu comment tu t'es révélé dans leurs circonstances. Que tu nous aides à agir fidèlement aussi, Seigneur. Tu nous donnes ton esprit qui agit en nous. Tu t'es révélé à nous en te faisant connaître à nous, Seigneur, par ta parole. Nous te remercions pour cela. Aide-nous à vivre pieusement à l'image d'Élisabeth et de Zacharie. Et même si nous souffrons certaines circonstances, que nous les acceptions comme venant de toi et que nous continuons à te servir et à faire ce qui est bien pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, dimanche.